Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
J'ai appuyé sur enregistrer. Du coup, nous sommes pas en ligne, mais on est pas en direct, mais on est en train d'enregistrer.
Yes.
Salut Camille, comment vas-tu?
Bien, et toi?
Bah écoute, ouais, je suis plein de bonnes énergies aujourd'hui.
Ouais, je vois.
Je me suis levé, j'ai eu le temps de faire ma petite séance de méditation, j'ai eu le temps de visualiser un peu le moment qu'on allait passer ensemble.
Cool.
De relire un petit peu mes notes. Mm-hmm. Et écoute, je dois te remercier parce que j'espère que grâce à toi, je vais enfin convaincre quelques copains entrepreneurs d'écouter mon podcast parce que ils l'ont jamais fait et je sais qu'ils jouent beaucoup au squash.
C'est pas vrai.
Et bah, je sais pas si tu sais, mais en gros le squash est quand même assez populaire un peu dans l'écosystème un peu business, entrepreneurial et tout. Et du coup, j'ai quelques copains qui jouent au squash et du coup, ils te connaissaient.
Ah ouais.
Et du coup, je pense que je pourrais les amener à écouter.
Cool.
Donc ça me fait hyper plaisir. En plus, je, bah, j'ai joué un peu avec eux. Donc
Et donc tu t'y amuses?
Écoute, ça me rappelle des mauvais souvenirs de tennis.
Ah non.
Mais moi j'ai une histoire un peu particulière avec le tennis parce que j'étais pas fait pour les sports de duel et d'affrontement et de face à face.
OK.
Mais en tout cas, ça a un pouvoir énorme, c'est que ça défoule.
Ouais.
Tu tapes partout, il y a du bruit, ça crie, ça tape fort.
Ouais.
Donc c'est vraiment un sport que j'aime bien, quoi.
Ok, cool.
et je me suis pris de passion à regarder tes matchs, tu vois.
C'est vrai.
Ouais. En plus, maintenant c'est super bien télévisé.
C'est super bien filmé. Et puis les endroits où c'est trop beau, quoi.
Ouais, dans des cages en verre, dans des lieux un peu atypiques et tout.
Ouais.
C'est quoi le lieu dans lequel t'aimes le plus jouer ou qui te marque le plus?
J'ai un petit faible pour New York parce que déjà c'est dans la gare centrale de New York, donc l'endroit est juste magnifique avec le cours vitré est en plein dans la gare. Il y a beaucoup d'histoires et ce tournoi a longtemps été que pour les hommes.
Ouais.
Et enfin, quand il a été chez les femmes, déjà j'étais trop contente de pouvoir le faire. Et puis je l'ai gagné deux fois au final, ce tournoi. Donc c'est vrai que maintenant, il est encore plus spécial à mes yeux, quoi.
Il s'appelle comment? C'est le tournoi des champions, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, il a un nom particulier.
Est-ce que c'est l'équivalent du Master 1000 au tennis?
Non, là, c'est l'équivalent d'un grand chelem.
Ok, ouais, c'est l'équivalent d'un grand chelem.
Ouais,
okay.
Vraiment.
Ok. Ouais, donc
non, c'est classe, c'est cool.
Mais écoute, peut-être que sans faire attention, je l'ai regardé hier. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois, vous êtes dans des super beaux décors. Il y a un côté très intimiste aussi. Il y a pas beaucoup de public.
Mm-hmm.
Et
c'est vrai.
Et on sent que il y a une énergie qui est très particulière, quoi. Mais trop chouette. Écoute, on pourra en reparler. J'ai très envie de savoir un peu quelle est l'ambiance justement sur le terrain et comment ça se passe un peu entre les joueuses.
Mm-hmm.
Mais comme je te le disais en préparation, il y a une tradition sur ce podcast et commencer toujours par la même question. Et cette question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Eh ben, le premier celui qui m'est venu en tête, c'est la médaille d'or d'Émilie Le Pennec en gym.
Ouais.
Je me souviens, c'était Athènes 2004. On était chez mes grands-parents, tous en famille, en fait, dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelle Cré. Et je me souviens, donc, on regardait les jeux à la télé. Et en fait... Moi, j'ai toujours aimé les jeux, toujours aimé regarder la gym, je trouvais ça toujours sympa. Et en fait, là, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle était licenciée à l'US Créteil.
OK.
Et là, je me suis dit "Waouh, c'est trop cool. On est licenciés au même club, enfin voilà et en fait, voir cette petite en gym, et voilà, c'est des jeunes gagner cette médaille d'or, enfin je trouvais ça énorme. Pour l'US Créteil, pour elle évidemment, mais enfin j'ai pas, il y avait comme une sorte de proximité, quoi. J'avais l'impression qu'on partageait quelque chose alors qu'elle me connaissait pas et tout, mais voilà, je trouvais ça vraiment vraiment chouette et c'est resté un bon souvenir.
Puis il y a pas un gros écart d'âge en plus?
Non, en fait oui, on avait même
16 ans quand elle gagne.
Exactement.
16, 17
ans, ouais. Et on avait même des connaissances en fait en commun, donc il y avait en plus cette proximité de mais elle connaît une autre Camille et en fait moi Camille c'est une pote d'une pote, enfin voilà, c'était un peu donc c'était rigolo.
Mais c'est vrai que sa médaille a marqué parce que je crois que c'est la première médaille d'or en gym de l'histoire française. Je me souviens très bien de ce moment aussi.
C'est vrai.
Mais j'adorais recevoir Émilie sur le podcast. J'ai tenté parce que je crois qu'elle est ostéo ou kiné maintenant.
Ouais, exact.
Et j'ai tenté de passer par la case médicale.
C'est vrai.
Pour la voir, mais du coup elle m'a dit non, désolé, je réponds plus trop, enfin.
Ah, okay.
Mais on est en contact. Je pense que ça se fera.
Ah,
bientôt.
Trop cool.
Si tu la vois, tu lui dis.
Mais je l'ai sur Instagram, je pourrais peut-être lui demander.
Ça marche. Attention, je te prends au mot, je te relancerai.
Ça marche.
Mais, ok, trop chouette. Ouais, donc c'est un souvenir qui t'a marqué. Et tu l'as rencontré rapidement après? Ou je sais pas,
non. Même pas. En fait, on s'est croisés quelques fois après sur les événements des étoiles du sport.
Ouais.
voilà, on s'est côtoyé sur ces événements, donc je pense que ouais, elle me connaît un petit peu, mais on n'a jamais été très proches. Mais en tout cas, ouais, c'est rigolo parce que elle sait pas que sa médaille m'a marqué comme ça. Donc ouais. Si un jour elle écoute le podcast, c'est
je ferai écouter. et t'as fait un peu de gym ou
pas du tout.
Pas du tout.
Non, mais j'ai toujours trouvé ça hyper élégant, enfin hyper impressionnant aussi. Ouais. M'a toujours épaté ce qu'ils arrivent à faire, donc j'ai toujours bien aimé regarder.
Ah, mais c'est sûr que il y a un, enfin je trouve là je regardais en plus cet été avec Samir Aït Saïd, ouais. Tu vois, que j'ai eu la chance d'interviewer d'ailleurs.
Ouais. Puis il a une histoire, enfin.
Ouais, et là, enfin moi j'en ai terminé les larmes aux yeux et ouais. Tout parce que du coup j'avais eu un peu la chance de le rencontrer. Mmh. Et ouais, moi je le vois vraiment comme des surhumains, quoi. Ouais. Enfin, ils s'entraînent tellement, mmh. Ils ont des corps
ouais.
Qui, enfin, ils s'infligent vraiment, vraiment des entraînements très, très colossaux, quoi. Et, donc, et moi, écoute, on touche du bois pour Samir. Moi,
oui.
J'espère qu'il touchera son rêve et rien n'est fini. Rien n'est fini. Et tu faisais déjà du squash à l'époque? À quel âge t'es tombé dans ce sport? J'ai
oui.
cru comprendre que...
Assez jeune, j'avais 7 ans.
Ouais.
Donc oui, quand Billy gagne sa médaille, j'étais déjà bien, bien dans le squash.
Ok. Déjà peut-être des titres, des compétitions.
Ouais, des titres en junior, peut-être déjà même mon premier titre de championne d'Europe.
Ok.
Ouais.
Et j'ai cru comprendre que t'étais tombé dans le squash un peu par hasard, parce que c'est ton ami Colin qui t'avait.
Ouais.
Qui tu joues au tennis, qui t'a tiré dans le squash.
Exactement, okay. En fait, on était dans ce club de Créteil où je joue toujours, en fait. Et club omnisport, les terrains de squash étaient à côté de ceux du tennis. Et puis, en fait, un jour, elle a eu envie d'essayer le squash. Et puis, en fait, l'entraîneur nous a tout de suite mis le grappin dessus. Philippe Signoret, il a tout de suite vu qu'on avait toutes les deux des qualités. Et puis moi, on a continué un peu les deux sports. Et puis en fait, moi, au bout d'un an, j'ai très vite basculé que sur squash.
Ok.
Elle a continué le tennis pendant un petit moment. Et puis, elle avait des résultats, donc je pense que ça l'a motivée ouais. aussi. Elle gagnait des tournois sur la région et tout, donc c'était cool. Et puis moi, non, tout de suite, enfin très vite, j'ai basculé squash.
Ok. Tu te souviens ce qui t'a plu ou qu'est-ce qui t'a un peu Qu'est-ce qui t'a attrapé dans le squash plus que dans le tennis, tu vois, par exemple?
C'est le côté vraiment ludique.
Ouais.
C'est-à-dire que au tennis, j'avais l'impression que la raquette était lourde, la balle, j'avais du mal à maîtriser. Et là, en fait, j'arrivais à jouer dans le court, quoi.
Ouais.
Très facile, enfin très vite, en fait. Et je sais pas, c'est vraiment ce côté ludique qui m'a plu, le côté jeu, essayer de mettre la balle loin de l'adversaire. Alors tu retrouves ça au tennis, mais je sais pas, il y avait ce côté accessible, quoi.
Ouais. Bah c'est vrai que ça a l'énorme avantage, je trouve, le squash, c'est que même quand tu t'es vraiment débutant,
ouais.
tu peux
tu
peux t'amuser et effectivement commencer à taper la balle. Donc,
exactement.
C'est aussi pour ça que je pense que mes copains aiment autant jouer, tu vois. Parce que même quand ils jouent pas pendant 6 mois, en fait, quand tu reviens, t'as quand même de super sensations, quoi.
Mmh, okay. C'est vrai.
Et c'est vrai que pour un enfant, ouais, je m'en rends pas compte, mais le fait de progresser très vite et très vite avoir des sensations, ça fait la diff, quoi.
Il y a ça, et puis en plus, en même temps, Philippe, l'entraîneur, il a lancé le mini squash.
Okay.
En même temps qu'on est arrivé, en gros. Et du coup, bah, c'était plein d'exercices ludiques, un peu ce qu'on voit au tennis, mais là, adapté au squash. Et ça m'a encore donné plus envie de rester, quoi.
Ok, ok, ok. Ça existait pas à l'époque? Enfin, tu vois, le mini squash, c'était pas
non.
du tout encadré pour les enfants?
Ouais, ça s'est lancé vraiment à l'époque où, enfin, si je me souviens bien, où, ouais, on est arrivé.
Ok. Trop chouette. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que, qu'il s'est passé une espèce d'alchimie avec, entre toi, ce club, ton
ouais.
entraîneur de l'époque. Vous avez tous grandi ensemble, finalement, et vous avez fait grandir le club, mais même le squash français à votre échelle, mais c'est quand même, vous avez quand même beaucoup œuvré pour.
C'est beaucoup mon entraîneur, quand même, qui est toujours mon entraîneur de d'aujourd'hui. Ouais. Donc ça c'est chouette aussi parce que on a une histoire particulière tous les deux, on s'est jamais quitté. Ouais. Depuis que j'ai 7 ans et c'est drôle de voir que oui, il a lui-même a évolué dans les échelons au sein de la fédération et au sein du club et a fait grandir le club en tant que pôle espoir, puis pôle France en même temps que Colline et moi on grandissait quoi.
Ouais.
Donc on a eu beaucoup de chance dans ce sens-là parce que on a enfin Colline est partie à un moment, mais moi, je suis jamais eu besoin de partir de chez mes parents. Ou, enfin, j'avais toujours mon cadre familial, ma stabilité. J'avais tout à portée de main, quoi.
Ok. Non, mais c'est trop chouette. Et effectivement, des fois, faut un petit facteur chance, tu vois, pour que des belles histoires se créent. Lui, vous aurez pas rencontré, il serait sûrement pas là aujourd'hui, et vous aussi, vous
c'est
non
vrai.
Plus, quoi, vice versa, mais,
c'est vrai.
Et malgré toutes ces années, donc ça va faire quoi, presque 25 ans, 24 ans, 25 ans?
Ouais, 25.
Vous avez jamais eu envie, ne serait-ce, tu vois, une saison ou deux de couper un peu ou de voir autre chose. Non, toi, c'était jamais traversé l'esprit.
Si, il y a eu des moments compliqués, notamment à l'adolescence où c'était pas, même si j'ai pas été trop rebelle, on a été à des petits clashs quand même. Puis il y a eu une grosse remise en question il y a quelques années après une défaite, en Égypte. Contre une Anglaise que normalement je battais et puis là je perds au premier tour contre elle et en fait après ce match là on s'est posé et il m'a dit peut-être qu'on est arrivé au bout de notre histoire, peut-être que je peux plus rien t'apporter, qu'est-ce que t'en penses, prends quelques jours pour réfléchir, enfin voilà. Et puis moi j'avais pas du tout, enfin j'ai réfléchi mais très vite je me suis dit non, moi mon rêve je l'atteindrai avec lui. Et c'était un de mes... je me suis toujours dit, et j'ai envie de montrer aussi aux gens qu'on peut y arriver tous les deux.
Ouais.
Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui... Ouais, qui ont dit... Enfin voilà, ça parle toujours dans le milieu du sport et qui ont dit qu'on n'y arriverait pas. Et moi, ça a été une source de motivation aussi. Donc, dis ok, non, moi je veux continuer avec toi, mais on peut changer ça. On peut ajouter. C'est de là qu'est venue l'idée de commencer le yoga, par exemple, pour gérer peut-être mieux le stress, tout ce qui est respiration, méditation. J'ai été aussi m'entraîner de temps en temps dans d'autres endroits avec d'autres coachs.
Okay.
Pour essayer de piquer quelques idées. Et puis, en fait, souvent, je revenais et je disais, voilà, on a fait ça. Il fait, ça, on le fait déjà. Bah ouais. En fait, lui, ça confirmait qu'on allait dans le bon sens.
Ouais.
Donc voilà.
Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que tu sais, juste, on parlait un peu de, tu vois, des secrets des champions ou des traits de personnalité qu'on retrouve souvent et l'éternelle remise en question. Tu vois, après, justement, après un coup dur ou après un échec, c'est quelque chose qu'on voit vraiment, tu vois, dans vraiment chez les athlètes de haut niveau, ou même chez les gens qui réussissent, on va dire, de manière un peu générale. Et j'ai l'impression que lui aussi là, tu vois, quand tu dis que c'est toi qui perds et c'est lui qui vient te voir en te disant peut-être que je peux plus, et c'est lui qui a un doute finalement sur
lui,
ses capacités.
Ah lui, ouais, c'est ce que tu dis. Comme l'athlète, en fait, il se remet beaucoup en question.
Ouais.
Et forcément, c'est plus facile à faire entre guillemets après une défaite, mais même après les victoires, très vite, c'est sur quoi on va travailler, sur quoi on va pouvoir encore progresser. Donc non, elle pareil, lui perpétuelle remise en question, savoir comment il peut s'améliorer en tant qu'entraîneur et essayer d'aller plus haut quoi.
Ok. Et peut-être pour fermer un peu la parenthèse, mais tu sais comment lui il se forme? J'ai une théorie, dis-moi si je me trompe, mais tu vois quand t'es l'athlète, t'es aussi dans une situation assez confortable où t'as un coach et si tu lui fais confiance.
Ouais.
Tu suis voilà ce qu'il me donne et tu te dis normalement ça va payer. Alors il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'échanges et c'est pas unilatéral du coach vers l'athlète. Mais je me suis toujours comme je m'intéresse de plus en plus au coaching et que moi je coach plutôt des entrepreneurs ou des sportifs mais plutôt sur la partie un peu business et entrepreneuriat de ce qu'ils veulent faire à côté. Je me dis c'est toujours la position du coach, c'est toujours aussi, mais comment est-ce que tu peux sans cesse progresser et apporter de la valeur ouais. Aux personnes que t'encadres, tu vois. Mm-hmm. Et lui, bah, comme, enfin, il entraîne les deux meilleures joueuses françaises, tu vois. Mm-hmm. Comment est-ce qu'il fait pour progresser encore et encore, tu vois, je veux dire, tu sais comment il se forme, tu sais s'il rencontre d'autres entraîneurs.
Ouais, bah, ils échangent, je pense, il a toujours beaucoup échangé avec les autres entraîneurs.
Ouais.
Il y en a qui étaient plus ou moins ouverts, mais par exemple, c'est drôle, mais, j'ai eu une grosse rivalité avec l'ancienne numéro 1 anglaise qui a été championne okay. du monde, numéro 1 mondiale. Et en fait, son mari était son entraîneur.
Okay.
Aussi préparateur mental. Enfin, il faisait tout, quoi, presque.
Okay.
Et c'est drôle parce qu'il y a eu une grosse rivalité entre nous deux. Et par contre, Philippe et Dani, donc le mari, échangeaient beaucoup après les matchs ou en tournoi. Ils adoraient se voir et puis discuter. Ah mais alors Cam elle fait ça, mais ouais mais Laura elle fait ça. Enfin c'était hyper drôle parce que sur le terrain, enfin voilà, c'était vraiment une de celles avec qui c'était la guerre. Okay. Et par contre après, enfin nous on n'a pas eu ces discussions, mais entre coach, il adorait quoi, Philippe. Okay. Et, ouais.
Et toi ça te rendait pas folle?
Non pas du tout, ben parce que je sais, enfin je faisais complètement confiance à Philippe, je savais qu'il n'allait pas dévoiler, mais c'était drôle de voir comment ils s'entraînaient, comment leur couple aussi fonctionnait autour de enfin il y avait plusieurs casquettes, donc c'était assez intéressant à de savoir comment ils fonctionnaient.
Ouais. Et tu vois, j'aimerais bien justement d'ailleurs je suis assez content de te rencontrer parce que je suis toujours curieux de savoir effectivement comment les couples coach entraîneur qui vivent aussi ensemble, comment est-ce qu'ils s'en sortent, parce que c'est une relation hyper particulière et mais en même temps que je trouve hyper saine. Je pense que si tu trouves la bonne personne qui te fait progresser, bah ça marche en fait, ça fonctionne. Ouais. Ça marche pas dans tous les cas de figure avec tout, ça marcherait pas avec n'importe qui. Mm-hmm. Mais du coup ouais, c'est une relation qui toi t'a inspiré, enfin où vous avez regardé un peu comment est-ce qu'il fonctionnait du coup avec Philippe.
Ouais, je pense. Après voilà, comme tu dis, c'était un peu différent parce que c'était vraiment couple dans la vie, mais je pense que c'était nous on en riait parce que des fois par exemple, je me souviens une fois, je la bats c'était en 2010, je la bats au championnat du monde. Alors elle était déjà top 5 mondiale, donc grosse perf pour moi. Et le lendemain, on les voit tous les deux sur le court. Donc déjà, retourner s'entraîner le lendemain d'une défaite comme ça au championnat du monde, pas évident. Et elle le pourrissait. Le pauvre, son mari, prenait trop cher. Parce que je pense qu'elle était dégoûtée d'avoir perdu et en fait, elle se défoulait sur lui, quoi. Et nous, on en riait parce qu'on disait, on se disait ouais que ça devait être dur quoi pour lui d'encaisser ça et puis de se dire bon là je laisse un peu mon couple de côté et puis bah je prends tout de la casquette d'entraîneur, enfin
ouais.
C'est, mais après eux ça fonctionnait comme ça, donc, ouais.
Ils sont toujours ensemble,
ouais et elle enceinte, elle va avoir un enfant, enfin ils vont avoir un enfant.
Ah ok, trop chouette.
Ouais,
trop
c'est
chouette.
Cool.
Bon bah je regarderai, je m'y intéresserai un petit peu plus, mais... Et t'as parlé un peu de la rivalité du coup que t'avais avec cette joueuse.
Ouais.
Je te le disais un petit peu avant qu'on commence d'enregistrer. On sent qu'il y a une ambiance très électrique dans. D'ailleurs, vous dites quoi? Vous dites sur le court? Vous dites dans la cage, dans la bulle?
Sur le court ou le terrain? La cage, je t'avoue qu'on aime pas trop. Pour nous, ça fait un peu péjoratif.
Ouais, mais je sais. En fait, j'avais entendu ça dans une interview et je me suis dit, je vais reprendre le mot.
Je vais la titiller.
Du coup, sur le court, quelle est l'ambiance, tu vois? Parce que tu te sens, t'entends l'autre, tu sens sa nervosité. Moi, j'ai joué au tennis, mais peut-être avec quand même une grosse distance physique, tu vois. Et tu peux vraiment sortir l'autre de ton champ de regard, par exemple, ou même ne plus l'écouter si tu ne veux plus l'écouter. Vous, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. comment tu gères, cette ambiance particulière qu'il y a sur un coin?
Bah déjà, quand tu dis c'est électrique, franchement, ça dépend de l'adversaire. Il y en a, ouais, vraiment. Il y en a. Bah justement, cette anglaise, c'était toujours très électrique. Mais elle, c'était avec tout le monde. Hein. Elle avait un comment dire, le Squash TV voulait lui donner un surnom qu'elle n'a pas accepté, mais c'était Ice Queen.
Ok.
Tu vois, la dame, enfin, elle était toujours très froide. Mais après, c'était une sacrée championne. C'était son caractère pour y arriver, mais personne n'aimait la jouer parce que elle était presque pas tricheuse, mais elle était prête à tout pour gagner, quoi. Mmh. C'est-à-dire que dans les règles, elle allait gêner son adversaire et le faire assez bien pour pas que l'arbitre le voie. Donc voilà, ces matchs-là étaient toujours assez intenses et j'ai d'ailleurs travaillé beaucoup en préparation mentale pour garder mon calme contre elle.
Ok.
Mais après, il y a par exemple l'actuel numéro 1 mondial qui est adorable. C'est une jeune, elle a 24 ans. Et alors elle, c'est, elle vit dans le monde des bisounours, quoi, presque. Alors c'est, je veux dire, elle va tout faire pour gagner, mais par contre, elle est super douce. En plus, elle a une voix toute douce. Enfin, et elle, pour le coup, dès qu'il y a un contact un peu fort ou que elle va s'excuser. Enfin, donc ça dépend vraiment des caractères de chacun. Mais par rapport à oui, c'est vrai qu'on, même entre les points, on va se croiser, on peut se regarder ou choisir de pas se regarder, hein. Ouais. Moi, je sais que des fois, au service, quand je fais, je me prépare avec la balle, je regarde que la balle et l'adversaire, en fait, il est en vision périphérique, mais je me concentre pas sur elle, forcément. Donc, il y a des techniques pour faire un peu abstraction de tout ça, quoi.
Ok. Et c'est pas plus troublant, d'ailleurs, de jouer quelqu'un qui vit un peu dans le monde des bisounours.
Ça peut.
Que, tu vois, t'as presque envie de t'attendrir, tu perds peut-être un peu de ton envie de gagner, ta rage de vaincre.
Ouais, ça peut après, mais j'allais dire avec l'expérience, bon, moi j'ai 32 ans, ça m'attendrit plus.
Okay.
Parce que quand tu sais pourquoi t'es là, et puis de toute façon, ce que je disais, hein, elle est quand même prête à tout pour gagner. C'est,
ouais.
Elle, son surnom, c'est the Princess Warrior, tu vois.
Ok.
Donc elle a ce côté princesse, mais en même temps c'est une warrior. Donc donc non, t'oublies très vite que, enfin voilà, tu sais pourquoi t'es là et t'as le job à faire, quoi.
Ok. Et toi, c'est quoi ton surnom d'ailleurs?
Moi, c'est la panthère.
La panthère.
Ouais.
Ok.
c'est un peu lié à mon déplacement, en fait. C'est un peu une caractéristique des Français en général. On est connu pour avoir, pour beaucoup travailler le ghosting. Donc en fait, ça c'est un exercice particulier où tu travailles le déplacement mais sans balle. C'est du shallow, en fait, un peu.
D'accord.
Et ça, nous les Français, on en fait beaucoup beaucoup. Et du coup, on est souvent connu pour être bas sur les jambes, se déplacer très bien techniquement.
Ok.
Et du coup, apparemment, alors pour être honnête, à la base, il m'avait trouvé un autre surnom que je n'ai pas trop aimé. C'était Catwoman.
D'accord. Okay.
Et moi, je l'assimilais tout de suite au costume un peu en cuir. J'étais là, non, c'est pas du tout moi. Et en fait, l'histoire est assez rigolote parce que c'est un jour, l'actuelle numéro 3 française, Mélissa Alves, avec qui je m'entraîne, qui me dit « Mais Cam, ce surnom, c'est pas possible. Moi, je t'aurais plus donné quelque chose comme la panthère. » Je fais « Mais grave, Mel, c'est trop bien la panthère. Moi, ça me plaît carrément plus. » Et en fait, après, l'opportunité s'est présentée. Un jour, j'étais à la fin d'un tournoi. On va boire un coup. Je suis avec les mecs, enfin le staff de Squash TV. Et comme par hasard, le présentateur me dit « Alors, tu aimes ton nouveau surnom ?» Je dis « Non, justement, j'en ai un autre à vous proposer. » Ils étaient tous les deux. Et quand je leur ai dit la panthère, ils étaient comme des fous. Ils sont anglais. Et du coup, ils étaient là, oh yes, la panthère, the French panthère. Et du coup, ils étaient à fond. Et bon, voilà, c'est resté.
mais c'est marrant, cette connexion que vous pouvez avoir avec les journalistes, du coup, jusqu'à
ouais,
choisir
mais
votre
en fait, ce que
surnom,
tu,
quoi.
Ce que tu disais, le squash, c'est quand même un petit milieu. Mmh. Et en fait, l'ambiance est vraiment bonne, mais entre tout le monde.
Ouais.
Il n'y a pas que entre les joueurs, c'est-à-dire que les squash, enfin la PSA, donc les organisateurs et même voilà les présentateurs de télé et tout, on les côtoie tout le temps, ils nous connaissent, enfin on les connaît assez bien. Mmh. Souvent c'est en plus des anciens joueurs, donc non, il y a vraiment une bonne ambiance et c'est cool.
Ok.
C'est vraiment cool.
Mais je te confirme qu'aussi que la panthère c'est plus cool que
Catwoman.
Catwoman. Mais non, mais attends, t'as la Princess Warrior, de Ice Queen.
Ouais.
Ouais, je suis un Catwoman, bon, ça fait un peu,
ouais, c'est ça.
Bon, ça fait un peu trop. mais, ok, très chouette. Et du coup, donc c'est lié, ouais, au déplacement et au fait que,
exactement.
Ok, donc du coup, tu te déplaces à pas de velours, quoi.
Ou... ouais, ben, en tout cas, assez basse sur mes jambes et tu vois, ouais, c'est ce côté un peu félin qu'il avait apparemment retrouvé.
Ok, ok. Bah c'est, non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Et du coup, ce que vous, l'exercice qu'on fait, c'est le ghosting.
Ouais.
Et donc, c'est le fait. T'as dit que c'est de jouer sans balle.
Exactement. En fait, tu travailles ton déplacement.
Ok.
Techniquement, souvent, mais en fait, c'est comme c'est un gros entraînement physique parce que c'est comme du fractionné, mais en fait spécifique, quoi.
Ok.
Nous, d'accord, souvent, on travaille 30 secondes de ghosting, 30 secondes de récup, tu fais ça 10 fois, et puis t'en fais 5 séries, l'équivalent de 5 jeux, quoi.
Ok.
Donc t'arrêtes tes listes,
tu fais... Et c'est quoi, tu fais des allers-retours dans
sur le terrain? Non, en gros, t'es au T, tu pars du T.
Ok.
Tu sais, la zone au milieu du terrain. Et puis tu vas à l'avant-droite, faire comme si t'allais jouer un amorti, tu reviens au T. Tu fais comme si tu faisais une volée au milieu du terrain à droite, tu reviens. Et en fait, tu fais comme une étoile, en gros.
Ok, ok.
Après, tu peux y apporter plein d'autres variantes.
Et le fait d'être sans la balle, ça vous force à vous concentrer sur le jeu de jambes et sur, exactement, la qualité de votre déplacement. Et du coup, c'est comme ça que,
exactement,
vous...
Et ça, on le travaille, voilà, en ce qu'on appelle en PMA, donc en, pour travailler cardio et... mais un peu la technique, mais après on peut le travailler aussi en vitesse.
Ouais.
Où là le but c'est de, là tu lâches les chevaux, la technique on s'en fout un peu et.
Ok. Et là t'envoies.
T'imagines que le deuxième rebond arrive et faut vite aller jouer la balle.
Mais en plus, attends, j'ai vu sur une des vidéos où tu joues, on voit, je crois, à un moment ton rythme cardiaque, on voit ton BPM.
Ouais. À un moment en fait.
Donc les présentateurs télé ont accès à cette donnée là.
Exact. Bah en fait, ils avaient trouvé un partenariat avec une boîte de cardio, enfin de, ouais. Et je pense que c'était pour faire des études et ils demandaient aux joueurs qui étaient d'accord pour porter ça en match. Okay. Et moi, en fait, depuis toute petite, je me suis entraînée avec des cardios, même en match sur des Open européens et tout. Donc ça me dérangeait pas du tout. Donc moi, j'ai accepté de faire l'étude en gros. Et du coup, ouais, tu pouvais voir sur Squash TV, ils montraient aussi.
Ouais. Mais on voit ton rythme, tu sais, il y a des moments où on voit 190, mais tu dis, mais comment elle fait? Et tu le tiens pendant très longtemps.
Ouais, ouais.
Mais c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou c'était juste effectivement une étude ou quelque chose de particulier? Parce que t'envoies quand même une info importante à l'adversaire aussi, tu vois, si la personne elle est au courant.
Honnêtement, pendant le match, là, tu regardes pas.
Ouais.
Enfin, tu vois, mettre ta tête pour regarder l'écran. Enfin, quand t'es dans ton match, tu penses pas à ça. Après, oui, tu peux peut-être le regarder en vidéo après, mais honnêtement, on voyait pas trop quelle information utile ils pouvaient en tirer.
Ouais. Ok.
Donc,
peut-être entre deux points, tu sais, après un point intense, tu vois, essayer de relancer vite. Ou...
Ouais, mais ça, tu peux très vite le casser, en fait.
Ouais,
tu peux très
bien
aller t'essuyer la main ou faire semblant que tu refais ton lacet. Enfin, tu sais, il y a des petites astuces.
Oui, oui. On les connaît entre sports de raquettes. C'est sûr qu'il y a toujours des petits trucs.
C'est ça.
Pour casser un peu le rythme.
C'est
ça. Si tu le souhaites. Et je me demandais aussi, tu vois, sur le vis-à-vis un petit peu justement de ce petit monde, de la longévité que toi tu as. Je sais même plus combien de titres de championne de France t'as, mais c'est 10, 12, 12 15,
je crois.
Tu vois, bref, c'est la folie. Ça fait quasiment 10 ans que t'es dans le top 10 mondial, même si ce n'est plus.
C'est marrant. Alors en termes d'années, je sais plus, mais j'ai vu... Bah, mon Philippe m'a envoyé une étude qu'il a fait, des stats et tout.
Ouais.
Et... si je me trompe pas, il y avait marqué 176 mois dans le top 10, un truc comme ça.
Ok, ouais, donc impressionnant.
Ah ouais, quand même. J'oublie, moi.
Et non, mais du coup, tu vois, je me demande comment est-ce que tu fais pour pas te lasser, tu vois, parce que tu... Bon, alors moi, je viens du tennis, donc il y a aussi un gros effet de lassitude, parce que tu vois, il y a eu les trois champions qui ont tout gagné, c'est toujours les mêmes.
Mm-hmm.
Donc même en tant que téléspectateur, au bout d'un moment, t'en as un peu marre. mais tu vois, dans le ventre mou du classement, il y a beaucoup plus de porosité, tu vois.
Ouais.
Enfin, dans le ventre mou, dans ceux qui sont, on va dire, juste après le top 10.
Mm-hmm.
Mais ouais, moi, je me demandais... Comment est-ce que tu fais pour maintenir, tu vois, cet engouement, cette passion, alors que tu joues souvent contre les mêmes joueuses? J'ai cru comprendre aussi que en tournoi par équipe, vous mm-hmm. aviez perdu, je crois, 4 ou 5 fois d'affilée contre la même équipe d'Angleterre, je crois. Ou...
Ouais, mais on les a battus finalement.
Oui, vous les avez battus, exactement.
Donc là, on est championne d'Europe en titre.
Ouais, tu vois. Non, mais tu sais, au bout d'un moment, t'as pas l'impression que l'histoire, elle se répète indéfiniment? Comment est-ce que tu fais pour casser ça, en fait?
En fait,
c'est ça qui m'intéresse.
Il y a plusieurs explications, mais déjà, quand je suis arrivée sur Circuit Pro, il y avait une, donc la numéro une mondiale était malaisienne.
Ok.
Et elle, pour l'instant, c'est la plus grande championne de tous les temps. Elle a été numéro une pendant 9 ans. Je crois qu'elle a 9 ou 10 titres de championne du monde. Et wow. Donc, je suis arrivée à cette époque où elle dominait le squash mondial et qu'elle perdait 2-3 matchs à l'année, quoi. Et sinon, elle gagnait tout. Et en fait... Je me lasse pas parce que comment dire, déjà j'ai vu le sport évoluer en termes de règles, c'est-à-dire qu'au début on jouait en 9 points indirects, puis on est passé à 11 points directs, puis le tin, en fait, la, tu sais, la partie basse du terrain, sur le mur frontal, a baissé. Chez les hommes d'abord, et puis chez les femmes aussi, on est passé aux mêmes règles.
D'accord.
Et en fait, tout ça a fait évoluer le jeu en lui-même. C'est-à-dire qu'on est passé d'un squash, donc à l'époque de Nicole David, où c'était beaucoup de relances. Alors, elle, je pense qu'elle a amené une partie physique incroyable, parce qu'elle était, elle, son surnom, c'était Duracell. Des fois, il l'a comparé à un homme. Enfin, vraiment, physiquement, elle était impressionnante. Alors, c'était une crevette, mais elle était juste inépuisable, quoi.
Ok. Parce que déjà dans le squash, vous êtes toutes, quand même des cardio.
Justement, je pense qu'elle a, amené cette partie physique, cette sphère physique. Tout le monde a dû s'employer et progresser encore plus, quoi.
Ok.
Et par contre, en termes de jeu, c'était un jeu beaucoup de relances, beaucoup au fond de court. Donc voilà, c'était long, mais pas forcément très impressionnant en termes de.
Ouais.
Et en fait, t'as les Égyptiennes qui sont arrivées,
ouais,
de plus en plus jeunes. Et les Égyptiennes, plus le fait qu'on passe en 11 et que le teen baisse, là, ça a amené un tout autre jeu, avait beaucoup plus porté sur l'avant du court, l'attaque, beaucoup plus spectaculaire, encore plus loin physiquement. Et là, Nicole, elle a pas suivi la transition. Alors, il y a eu aussi l'âge, mais... et en fait, moi, je me dis que c'est cool parce que j'ai vécu plusieurs... Enfin, j'évolue avec le jeu, quoi, avec le sport. C'est tout le temps en train d'évoluer. En fait, c'est inépuisable. Comme tu peux inventer encore plein de choses, enfin faire plein de choses. Et du coup, mes adversaires, elles ont aussi évolué. Les Égyptiennes, je te dis, elles arrivent de plus en plus jeunes. Donc oui, je les connais toutes, mais il y en a toujours une qui sort une nouvelle. Et tu te dis, mais celle-là, je la connais pas, je la connaissais pas. Enfin, en fait, t'as jamais le temps de t'ennuyer parce que oui, les meilleures, tu les connais. Mais en même temps, je te dis, j'ai vu plusieurs déjà générations. Moi, maintenant, je fais partie des plus vieilles dans le top 10. Et puis, en fait, t'as toujours envie de progresser en même temps que le sport lui-même, quoi.
Ouais.
Tu dis, ok, ça, physiquement, faut aller encore plus loin. Bah, ok, je vais me mettre à la page, quoi. Ah, là, faut se porter plus vers l'attaque. Ben, vas-y, je vais travailler mon jeu. Enfin. Du coup, tu t'ennuies jamais.
Ouais, ok. Ouais, donc tu te lances toujours des nouveaux défis, on va dire, mais vraiment porté sur le jeu et la technique.
Exactement.
Aussi, ok. Mais ça m'inspire aussi, tu vois, parce que on en discutait juste avant, mais tu vois, là j'approche des 120 interviews enregistrées.
Ouais.
Tu vois, et je suis à ce moment-là où je me dis, comment est-ce que je m'amuse encore? Comment est-ce que je me lance des nouveaux défis? Qu'est-ce que je vais tenter? Qu'est-ce que
je comprends.
Comment je m'amuse, tu vois? Donc je suis toujours très curieux de savoir, tu vois, comment.
Mais après, ça marche aussi beaucoup avec mon duo. Enfin, j'allais dire avec l'entraîneur.
Bien sûr.
Cette notion de plaisir, comme tu dis, elle a toujours été très importante chez moi. Moi, je me suis toujours dit, quand je prendrai plus de plaisir, j'arrêterai. Mais justement, enfin, c'est apporté aussi par ton entraîneur, par ton staff qui te propose des choses nouvelles, ou toi qui as l'initiative de, voilà, j'ai vu ça, je veux faire ça. Enfin, c'est toujours ça marche en équipe, quoi.
Ouais. Okay. Mais non, bah hyper intéressant. Je fais juste une micro parenthèse parce que tu as cité les Égyptiennes et effectivement, tu vois, en m'intéressant aux 10 dernières années, j'ai l'impression que ouais, depuis c'est quoi les 2005, 2006, 2008, il y a une grosse arrivée de plein de joueuses égyptiennes et joueurs égyptiens qui arrivent. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est devenu le sport national là-bas.
Ouais.
mais j'ai pas trouvé pourquoi. je me demandais, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a une raison politique, économique à ça?
La vraie raison, je sais pas. Nous, on a plusieurs explications. Donc, ça a été un sport amené par les Anglais, l'ancienne colonie anglaise. Et en fait, dans les années 90, je crois, il y a eu un champion qui est sorti chez les Égyptiens, un champion du monde. Okay. Et en fait, c'est devenu une superstar.
Okay.
Et du coup, tout le monde a voulu faire comme lui.
Okay.
Et en fait, ça a été effet boule de neige, c'est-à-dire qu'après, ben, il y a des clubs qui se sont construits partout, au Caire notamment, il y a des clubs partout. Et et au fur et à mesure, ben, voilà, comme tu dis, des champions, et donc tous les enfants avaient des modèles, et donc ils voulaient devenir comme eux. Et puis c'était aussi une manière de socialement peut-être s'en sortir et montrer que on était une famille assez aisée en Égypte. Enfin voilà, c'est vraiment effet boule de neige. Et du coup, il y a c'est le deuxième sport national après le foot là-bas.
Ouais,
c'est, tout le monde connaît le squash. Enfin, c'est quand t'arrives sur les, tu sais, en avion, les passerelles, ben t'as les têtes des joueurs de squash. Enfin, t'as des pubs dans toute la ville avec les champions. Enfin, c'est
non, ouf. Non mais c'est complètement dingue, tu vois, de en fait, enfin c'est dingue. Oui et non, en fait, parce que si tu regardes, si on observe un peu, tu vois, dans la rue, il y a d'autres sports qui sont valorisés en France, mais chez eux, voilà, c'est, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu le sport. Et je pensais qu'il y avait une autre explication, mais ouais, c'est peut-être comme chez nous avec Yannick Noah, tu vois, qui gagne, et il y a plein de générations qui se construisent derrière, et parce que ça fait rêver plein de jeunes. Mais ok, bah écoute, très très cool. Fermer cette parenthèse, mais on a parlé pas mal de, tu vois, de prépa physique, de prépa mentale et tout. On t'a parlé aussi un peu de du fait que tu avais commencé à faire du yoga. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Alors bon, aujourd'hui, c'est très particulier parce que tu es blessé. C'est la première fois depuis le début de ta carrière que tu te blesses.
Presque, ouais.
Mais normalement, une semaine type, sachant que vous avez des cardio monstrueux, à quoi ça ressemble? Comment est-ce que tu bosses le foncier? On peut commencer, si tu veux, par la partie physique.
Ouais.
Et puis après, aller vers la partie mentale, tu vois, pour savoir un peu comment tu organises tout ça.
Ok. Eh ben, la partie physique, du coup, donc en gros, une saison normale avant Covid de squash, c'est de septembre à juin. Donc la partie foncier, justement, on le fait l'été.
D'accord.
En général, on a deux mois et demi pour travailler le cardio, le fond. Donc là, on fait beaucoup de pistes, de marches, d'escaliers. Voilà, tout ce qui est hors cours, en fait, on le fait l'été normalement. Après, dès que la saison commence ou qu'on se rapproche du début de la saison, on va sur le terrain. Et c'est là où on commence la partie ghosting, notamment.
Okay.
On ajoute de la vitesse. La muscu, on en fait un peu pareil l'été.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais après, c'est pendant la saison, normalement, il y a tellement de tournois que c'est plus de l'entretien.
Ouais, okay.
Parce que les compètes s'enchaînent, donc t'as pas vraiment le temps de t'entraîner réellement. Après,
ouais, vous allez pas vous faire un bloc de foncier alors
non.
Que oh, okay. Et quand tu fais le foncier l'été par exemple, tu vas te faire du fractionné, beaucoup de fractionné, course à pied.
Beaucoup de fractionné sur la piste, on a fait du travail de 8 minutes, 5 minutes, puis tu descends en fait, plus tu avances dans l'été, plus tu descends et tu te rapproches des temps en fait d'échange sur le terrain.
Ouais.
Pour coller en fait le plus possible à au squash, à la discipline.
Et c'est quoi, un point, ça dure en moyenne 30 secondes, entre 30 secondes et une minute?
Ouais, c'est ce que je dirais, entre 30 secondes. Pff. La moyenne, je crois que Philippe, justement, avait regardé ça, et chez les filles, on était assez surprise que c'était moins de 30 secondes.
Okay.
Il me semble, en moyenne.
On dirait pas, parce que vous, ouais, vous voyez la balle.
Mais en fait, ça va tellement vite.
Ouais, c'est ça aussi.
Que t'as le temps de faire plein de balles, mais en temps, après, tu regardes, tu fais, ah, bah, ouais, non, ça fait 30 secondes.
Non, mais c'est vrai que des fois, ouais, il y a 30, 40, 50 échanges.
Ouais.
En fait, tu regardes le temps, mais c'est parce que vous.
Ça va vite.
En une seconde, vous avez le temps de frapper trois fois la balle, quoi.
Bah, dès que tu fais des volées, en plus, enfin, voilà, il y a beaucoup de, ouais, ça va vite.
Ok, ouais, ok. Donc ouais, donc vous commencez avec des blocs un peu longs,
ouais.
Et plus les matchs se rapprochent, plus tu vas aller faire du,
exactement,
du court, donc du 30-30 ou ouais, ce genre de choses.
Okay. Du court et intense.
Ok. Mm. Bon, ça parlera parce que y a beaucoup d'auditeurs qui font de la course à pied, donc
ah.
ils aiment bien. Enfin, on est tous curieux de savoir effectivement comment un athlète intègre la course à pied, tu vois, dans son entraînement, parce que c'est quand même le moyen le plus évident de vraiment travailler son foncier, quoi. Mais
après, je sais que par exemple, y en a qui se tournent pas mal vers le vélo aussi.
Ok.
Pour c'est moins traumatisant quand même pour les articulations. Et par rapport à l'âge, tu vois, moi pareil, la course à pied, je pense que je vais moins en faire maintenant parce que ben le problème d'arthrose, le truc
ouais.
Très vieille, donc le vélo, au moins tu peux travailler la caisse mais sans traumatiser tes articulations.
Ouais, c'est
donc,
clair. Okay.
Je sais qu'il y a pas mal qui font comme ça aussi.
OK. Et du coup, à part la course à pied, il y a d'autres disciplines, on a mentionné un peu le yoga et le pilates.
Et le pilates, ouais.
Quand est-ce que tu t'y es mis, pourquoi?
Alors le pilates, ça a été il y a vraiment un moment, je dirais 8 ans à peu près, parce que suite à une blessure au dos en fait.
OK.
Je crois que j'ai 21 22 ans et je me suis blessée au dos alors que j'étais partie en compétition aux États-Unis. Et du coup, c'était avant le premier match, donc j'ai pas pu faire la compète. Et quand je suis rentrée, on a vu que j'avais des problèmes de disque au niveau en bas du dos. Et on m'a dit, va falloir renforcer pour pas être embêtée, va falloir renforcer toute la zone, donc lombaire et puis abdominale, quoi.
Okay.
Et en fait, il s'est trouvé que par chance, Philippe avait une de ses voisines qui était prof de pilates.
Okay.
Et il m'a dit ça peut être cool pour ce que t'as à faire, quoi, en prévention. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et on s'est pas lâché et ça m'a bien sauvé.
C'est vrai.
Ouais, parce que je crois que j'ai eu une ou deux crises après, mais jamais aussi violente que la première.
Ouais.
À plus pouvoir bouger du tout, et du coup en faisant cette prévention, ouais, ça m'a vraiment bien aidé.
Ouais, donc ouais, remuscler le dos et toute la sangle abdominale.
Exactement,
avec
les muscles profonds et tout.
Ok. Mm. Mais écoute, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent dans les pôles espoir et tout, donc
ouais.
J'espère qu'ils entendront bien le conseil. Faites-le dès maintenant parce que
ça prévient, ouais, des éventuelles blessures, quoi.
Ok. Ok. Et le yoga, tu es venu comment?
Eh ben le yoga, c'était après du coup une défaite où on s'est dit c'est pas possible, c'est encore on parle encore de stress, de gestion du stress. Et puis du coup, on se disait le yoga pourquoi pas. Enfin moi ça m'attirait déjà
ouais.
Comment dire, sur Instagram je suivais des nanas qui faisaient du yoga. Enfin je trouvais ça cool. Vous connaissez pas vraiment la discipline, mais ça faisait des belles photos.
Il faut bien qu'on soit attiré par quelque chose, tu sais. Il y a pas de jugement. Moi aussi, je l'avoue très bien quand je vois des hommes effectivement tenir sur les mains,
ouais,
ou faire des positions un peu acrobatiques,
ouais,
ça m'a
cool.
Donné envie de m'y mettre.
C'est ça. Bon, bref, moi du coup c'était quand même plus pour ce côté respiration, méditation. On s'est dit ça peut être un atout en plus par rapport à la prépa mentale et tout. Donc c'est comme ça que j'ai essayé. Et ah oui, je voulais travailler la souplesse encore.
Ok.
Voilà, donc il y avait vraiment ces deux aspects-là. Et pareil, c'est Philippe qui m'a aidé à trouver une ancienne sportive de haut niveau en basket.
Ok.
Et donc au début, ça se faisait chez elle à Choisy-le-Roi. Donc, et en fait, elle a déménagé vers Biarritz. Du coup, on a continué en visio.
Ok.
Ouais.
Ok.
Et
okay.
Ça fait, je sais pas, 5 ans au moins.
Putain, c'est ok.
Ouais.
Et ça fait 5 ans que tu fais du coup en visio.
Ça doit faire 3 ou 4 que je fais en visio.
Ok. Ok, ok. Mm. Et t'as jamais eu envie de le faire donc là, c'est en cours particulier.
Ouais.
Une fois par semaine.
Ouais.
Ok. Et t'as pas eu envie de le faire un peu plus, tu vois. Là, on est en région parisienne, il y a quand même une belle offre.
Mm.
T'as pas eu envie de tester d'autres choses ou
Alors, le truc, c'est que Les semaines sont bien chargées quand même.
J'imagine, Déjà, on a parlé de pilates, je t'ai pas demandé combien de fois t'en faisais.
Pilates, j'étais passée à deux fois par semaine à un moment, mais c'est vrai que quand tu veux, enfin, le squash, t'es quand même obligé d'y passer du temps pour que ce soit technique ou tenter, enfin, ce qu'on disait, évoluer avec le sport et tout. Donc, ça faisait quand même des semaines bien remplies et ouais, moi, j'estimais que j'avais pas le temps de me rajouter d'autres trucs. Okay. Tu vois, j'étais déjà bien fatiguée, quoi.
Non, mais c'est clair. je te dis ça, mais je te charrie. En plus, enfin, j'ai cru comprendre. Enfin, déjà, enfin, sur tous les sports de raquette, t'as besoin de passer quand même énormément de temps sur le terrain. Pour
la répétition.
Parce que c'est de la répétition, c'est des gammes.
C'est exactement, j'allais dire, c'est des gammes.
Donc déjà, tu rentres, t'es rincé, quoi. Et quand t'as fait 2000 fois le même geste dans la journée, t'as toujours envie de...
Il y a ça. Et puis, bah comme tu dis, tu vois, il y a la prépa mentale. Donc ça te prend du temps aussi. Enfin, et puis, en fait, c'est toute une gestion de carrière. Après, t'as les rendez-vous sponsors. Et en fait, on n'est pas un sport hyper médiatisé ou quoi, mais mine de rien, t'as quand même des gens passionnés qui te sponsorisent et qui t'aident, et ils demandent un retour aussi, tu vois. Donc passer dans un club pour faire ça, manger avec ton sponsor, enfin, et en fait tout ça, ta journée elle est bien remplie.
Ouais, elle est bien remplie. Plus des podcasteurs qui viennent t'embêter.
Voilà, franchement, j'ai du temps, je suis blessée donc.
Mais ça colle plutôt bien, on est plutôt bon en organisation.
Le timing est parfait.
En plus, moi j'aide les gens à récupérer plus vite, je te jure.
Ah, super, ouais, la bonne humeur.
Ouais, exactement, bonne humeur, le fait de penser à autre chose, de libérer la parole aussi sur pendant un moment un peu down, tu vois, je suis sûr que ça fait du bien.
Ouais, non, c'est vrai.
Ok, mais hyper intéressant, tu vois, et je pense que c'est encore... je sais pas toi quelle est ta vision, mais tu vois, je pense que c'est encore trop sous-estimé, tu vois, l'importance d'aller chercher justement dans des disciplines sur lesquelles tu peux avoir des effets vraiment sur le long terme, tu vois, comme tu disais, gestion du stress, respiration, et le yoga, c'est vraiment particulier, quoi.
Ouais, et encore, on a évolué, il y a encore quelques années, c'était presque tabou, quoi.
Ouais. Non mais c'est vrai. Et bon, écoute, si jamais t'as envie de tester, moi j'ai fait à côté de Bastille, j'ai fait du hot yoga.
Ah, j'en ai entendu parler mais j'ai jamais essayé.
Alors bon, t'as le Bikram yoga où tu sais c'est... Je suis pas fan parce qu'il y a une mauvaise histoire quand même sur le fondateur de cette discipline, qui est pas très jolie. Je crois qu'il y avait même eu un documentaire sur une plateforme de VOD dont on taira le nom. Mais sinon sur le hot yoga, je pourrais te donner le nom de la salle juste après, c'est à côté de Bastille, pas très loin.
Ok.
Et moi je me régale parce que t'es un peu dans le noir, il y a des bougies, il fait super chaud, il y a de la musique et je passe toujours un super bon moment. Sors de là vu que tu transpires beaucoup, t'es vraiment rincé, quoi.
Ah.
Donc c'était une des découvertes que j'ai fait pendant le Covid mais en plus tu gagnes avec la chaleur. Tu gagnes beaucoup en souplesse.
C'est vrai?
Ouais, tu gagnes beaucoup en souplesse.
Ah.
Et
tu sors, t'es là, oh, je suis trop fort.
Mais non, mais en plus, entre tous les sports que j'ai fait, je pense que j'étais rouillé et complètement, je suis pas souple du tout.
Okay.
Et le fait, tu vois, d'ajouter de la chaleur, tu peux aller chercher une souplesse plus rapidement et plus agréable que t'aurais pas eu sinon, quoi.
Okay.
Donc c'est assez chouette.
Cool.
et est-ce qu'on peut parler un peu prépa mentale?
Oui, carrément. Ouais. Allons-y.
Bah alors, je sais pas si on peut le dire, mais on a été mis en relation par Jonathan, qui est ton compagnon aujourd'hui. Et aujourd'hui, il t'accompagne sur la prépa où vous bossez ensemble.
Ouais.
Ouais. Et Jonathan, je l'avais rencontré parce que justement, il fait beaucoup de formations à l'hypnose et à la préparation mentale autour du sport. Il a même écrit un super bouquin que j'ai commandé il y a quelques jours et que j'attends toujours, donc j'ai hâte de le lire. Et je pense que vous entendrez, je parle aux auditeurs directement, je pense qu'on entendra Jonathan très vite sur le podcast parce que j'aime beaucoup son travail et ce qu'il fait. Comment est-ce que toi t'es tombé dans l'univers de la préparation mentale? Qu'est-ce qui a fait t'y intéresser
Très jeune.
Très jeune.
À l'âge de 16, je crois, 16 ans. En fait, j'avais des problèmes un peu de gestion d'émotions sur le terrain, l'énervement notamment, la colère et même m'en taper, tu vois, avec la raquette, je me tapais le mollet et tout. Enfin, ouais, c'était plus possible, quoi. Philippe me disait, je ne veux plus te voir sortir comme ça. Donc, c'est encore Philippe qui a eu. De toute façon, il m'a toujours guidé. Enfin, c'est lui qui a beaucoup pris les décisions, mais toujours les bonnes décisions. Donc c'est lui qui m'a parlé de la préparation mentale et du coup j'ai commencé à l'âge de 16 ans et ça m'a tout de suite plu, ça m'a beaucoup apporté sur la gestion de mes émotions sur le terrain. Puis vers l'âge de je crois que c'est 21-22, je pense qu'on était arrivé au bout de notre travail ensemble, donc j'ai changé et je suis passée avec Makis Chamaïkis, avec qui je travaille toujours en plus de Jonathan. Que j'avais rencontré, alors c'est drôle parce que j'allais dire je l'avais rencontré aux Étoiles du Sport, mais en fait la première fois que j'ai rencontré Makis j'avais 12 ans. Philippe l'avait fait intervenir avec son collègue au Pôle Espoir et c'est là en fait que la toute première fois on a entendu parler de la préparation mentale, parce qu'ils avaient fait un super truc tous les deux, c'était une carte du mental et c'était en fait une carte avec des univers, enfin c'est super bien expliqué pour les jeunes quoi et très accessible. Et en fait du coup quand j'ai dit à Philippe ben voilà j'aimerais changer, on a pensé tous les deux à Makis parce que je l'avais recroisé sur les Étoiles du Sport. Et il dit bah tu te rappelles, on l'avait fait venir, enfin voilà, ça on a recommencé comme ça et ça a été vraiment cool. On a fait beaucoup de travail sur les pensées parasites, sur les routines à mettre en place, sur des adversaires en particulier, notamment Laura, l'anglaise dont je parlais tout à l'heure. Des petits blocages comme ça sur certaines nanas qu'on a réussi à débloquer ensemble. Donc c'était vraiment cool. Du coup, Jonathan est arrivé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, par mon entraîneur physique en fait de l'époque, Frédéric Roilen. Qui me dit je pense que j'ai un nouvel outil qui pourrait être intéressant pour toi, j'ai découvert ça moi à travers mes petits problèmes de santé, c'est l'hypnose. J'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique, mais bon pourquoi pas.
C'est vrai que le mot fait toujours un peu peur parce que
c'est ça,
t'attends au spectacle,
tu connais pas exactement. Et en fait il me dit bah voilà son bouquin. Donc il me donne le bouquin de Jonathan et en fait il en parle donc à moi et Philippe et du coup très vite on se dit bah ouais carrément pourquoi pas, ça peut être intéressant, on contacte Jonathan et je me souviens on a été déjeuner avec Jonathan et Philippe tous les trois pour lui parler un peu de notre projet et savoir s'il avait envie, enfin s'il était ok pour qu'on bosse ensemble et il a accepté et du coup on a commencé comme ça. Et en fait, lui, il habitait à Nice à l'époque, donc on travaillait pas mal à distance. Et après une grosse défaite au championnat du monde, c'était au Caire, en quart de finale, alors que bon, j'étais attendue au moins en demi. On a dit bon, là, faut mettre les bouchées doubles sur encore toujours le stress. Avec Jonathan, voilà, on a dit faut qu'on mette les bouchées doubles. Et du coup, on l'a fait venir au tournoi de New York en janvier. Donc là, c'était la première fois qu'il venait en tournoi et donc c'était la première fois qu'on mettait une vraie routine d'avant-match ensemble, quoi. Et je suis allée au bout du tournoi. Donc, c'était assez cool.
Tu m'étonnes, ouais. Et sans tout dévoiler, ça ressemble à quoi une routine d'avant-match? C'est
en gros,
c'est des gestes, c'est des pensées, c'est des paroles, c'est...
Ça dépend. En fait, lui venait, on discute à peu près 2 heures avant le match. On discutait, il voyait un peu dans quel état d'esprit j'étais. Et selon mon état, c'était soit on discutait, soit il y avait un peu d'hypnose. Ça m'est arrivé avant un match de pleurer. Ouais, parce que il y avait des émotions un peu trop fortes et il disait bon, faut les faire sortir quoi. Enfin, ou des fois il me prévenait pas. Ouais. C'est pendant l'hypnose, je fais super. Mais il disait t'inquiète, ça c'est sorti, c'est ce qu'il fallait et tout à l'heure tu seras bien quoi. Et il avait raison.
Mais c'est ça qui est vachement fort, c'est aussi effectivement cette capacité à voir quand est-ce qu'une émotion doit rester, quand est-ce qu'elle doit être contenue, quand est-ce qu'elle doit être évacuée quoi. Et une séance d'hypnose peut-être pour les gens qui connaissent pas de ton point de vue, comment est-ce que tu décrirais ça?
En fait, ça dépend vraiment de la demande de la personne, c'est-à-dire que ça peut Moi, je me souviens, la toute première séance que j'ai faite, c'était par rapport à justement le stress me causait une boule au ventre.
Okay.
Et en fait, il y a des fois, j'avais même pas l'impression moi d'être stressée, c'est-à-dire que la tête, moi j'avais l'impression que tout allait bien, et c'était mon corps qui réagissait avant.
Okay.
Et c'était vraiment une douleur, en fait, une boule sous le diaphragme là à droite, et c'était insoutenable, enfin vraiment horrible. Et quand je devais jouer avec ça, enfin, c'était pas vraiment pas cool quoi.
Okay.
Et du coup, on a travaillé sur cette, sur ça. Donc, je me souviens que, en fait, il a essayé de voir d'où ça venait, quand est-ce que la première fois c'était apparu, pourquoi aussi, les raisons. Et en fait, c'est drôle, maintenant je rigole, mais cette première séance, j'ai ouvert les yeux, j'étais en pleurs, quoi.
Okay.
Et parce que, voilà, il y avait des choses qu'il fallait lâcher. Et... Donc, ça peut être beaucoup d'émotions. Mmh. Et souvent, ça va chercher dans notre passé, en fait, des choses assez lointaines dont on se rend pas compte, mais en fait, qui sont intégrées loin, quoi.
Ouais.
Mais moi, j'adore parce que je sais que c'est pour aller mieux, même si sur le moment, ça fait c'est pas cool de forcément pleurer et tout, mais par contre, après, on se sent plus libéré, on se dit, oh, yes, enfin, je vis avec ça depuis tellement longtemps et là, ça y est, je suis débarrassée, quoi.
Ouais.
Donc, c'est vraiment cool.
Ok, ouais, non, mais ça a l'air, c'est sûr.
Je l'ai bien vendu.
mais moi j'avais eu effectivement l'occasion de rencontrer Jonathan via parce que lui du coup forme des gens à l'hypnose et moi j'étais une personne qui m'était portée volontaire pour être cobaye.
Ouais.
Et du coup j'avais vécu un exercice d'hypnose des étudiants qui étaient là et je trouvais ça génial quoi.
Ouais.
C'est super
bluffant.
Fort.
Ouais.
Et quand c'est bien réalisé, que c'est en toute bienveillance et tout, c'était cool. Après, je pense qu'il y a certains types de personnalités ou aussi certaines humeurs, certains jours où t'es plus réceptif que d'autres.
Oui, t'as
justement,
raison.
Et peut-être que justement, quand tu renfermes ces émotions et que t'as ce stress à l'intérieur et que t'arrives à t'ouvrir, ben là, c'est super puissant, quoi.
Ouais, t'as raison.
Alors que, je sais pas pour toi, mais moi, des fois, au contraire, des fois, je me sens super bien.
Mmh.
Et du coup, j'ai pas envie spécialement, tu vois, de rentrer dans le jeu de l'hypnose.
Ouais. Mmh.
Parce que j'ai peur de perturber un peu l'équilibre, tu vois.
Ouais.
Donc,
ok.
Mais trop chouette. Sur peut-être tout ce que tu fais en prépa mentale, je sais pas, est-ce qu'il y a des, tu vois, sans peut-être dévoiler tous tes secrets ou rentrer dans toutes tes routines, mais est-ce que, ouais, il y a des petites choses que t'as mis en place qui t'ont vraiment, changé la vie ou qui ont vraiment bien marché sur toi. Qu'est-ce que si on rentrait un tout petit peu dans le concret, tu vois, avec un auditeur disait j'aimerais bien faire comme Camille, tu vois, par exemple. qu'est-ce que tu leur recommanderais un peu de faire rapidement?
De faire rapidement, par exemple, il y a moi je sais que sur le terrain, des fois il y avait des pensées parasites, ce qu'on appelle, donc du négatif, je sais pas, je suis fatiguée, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ci. Et en fait, il y a un outil qui a vraiment, mais trop bien marché pour moi. Et ça, c'est à l'initiative de Makis.
Okay.
Enfin, on l'a un peu, trouvé ensemble. C'est que dans mon sac de squash, quand je pars pour un match, alors il faudrait que je le fasse à l'entraînement aussi, je le fais pas tout le temps à l'entraînement. Mais en match, je le fais à chaque fois. J'ai des objets dans mon sac où je mets des mots dessus. Souvent, j'en ai trois. Il y a négatif, frustration et peur. Et en fait, à chaque fois, j'essaye de trouver des objets assez lourds, assez conséquents quand même, pour que, en fait, si ces émotions arrivent sur le terrain, entre deux jeux, je vais prendre l'émotion, par exemple frustration. Là dernièrement, j'ai sorti frustration. Je la sors de mon sac et en fait, c'est comme si je la sortais de moi, de moi-même. Et ça paraît bête, hein, mais moi, ça a trop bien marché.
Okay.
Et ça marche encore aujourd'hui.
Ok, c'est hyper intéressant.
J'adore cet outil et vraiment, enfin, c'est ok. La frustration, là, je t'ai dans mes mains. Je le fais assez, pas violemment, mais voilà, fermement, parce que je le sors de moi, de mon sac. Des fois même, je vais lui marcher dessus.
Okay.
Là, c'est bon, la frustration, tu l'as bien vu, elle est plus là. Elle rentre pas avec moi sur le terrain.
C'est hyper intéressant.
Ouais. Et cet outil, je l'adore.
Ok, bah écoute, je vais te le piquer. Je vais essayer parce
Allez-y.
Que ça m'arrive aussi, tu vois, des fois de... Ouais, je pense que tu vois, comme tout le monde, d'avoir des petites pensées un peu négatives et de me dire ouais, je suis pas assez fort pour faire ça, ou je suis pas assez doué, ou de me dire mais je comprends pas pourquoi moi j'y arrive pas, tu as des frustrations, et comme tu peux le voir, j'ai aussi un sac.
Ouais. Bah, il faut trouver ton mot. Alors ça peut, moi j'ai donné les miens, mais ça, il faut trouver le mot qui correspond le mieux à justement à ces émotions là. Et je pense que ça peut vraiment, enfin en tout cas moi je l'adore.
OK. Bah écoute, trop bien. Franchement trop bien, vraiment chouette là. Moi je suis revenu à un truc tout bête, c'est sous ma douche dire trois choses vers lesquelles je suis reconnaissant.
Ah, trop bien.
Voilà, et c'est tout bête, tu vois, c'est dans la douche, donc tu vois, ça te prend pas beaucoup de temps. Ça me prend une minute, et puis je vais dire voilà, bah je vais être reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissant de que Camille m'ait ouvert sa porte et qu'on puisse passer deux heures ensemble avec du soleil et dans une bonne ambiance et avec le sourire. Voilà, je suis reconnaissant d'être en super santé. Ouais. Je suis reconnaissant d'avoir des parents qui me soutiennent dans tous mes projets. Voilà. Et tu vois, tous les matins, je me fais ça.
Ah, c'est trop cool.
Et franchement, c'est dingue à quel point ça influe sur l'humeur, quoi. Mais en parlant de petites routines un peu de bonheur, j'ai vu que tu adorais chanter.
Oui.
Tu chantes beaucoup et tu chantes genre super bien.
C'est gentil.
C'est depuis toujours?
Alors que je chante, oui. Okay. J'ai toujours adoré chanter. Tu pourras demander à mes parents, je les saoulais, à mon frère aussi. Ouais. Non, c'est drôle parce que oui, j'ai toujours adoré chanter. J'avais des potes qui le savaient, mais je m'étais jamais pris au sérieux.
Okay.
Et en fait, j'ai découvert une application là sur smartphone pour chanter il y a quelques années. Et puis j'avais un peu laissé tomber. Et en fait, l'année dernière, pendant le premier confinement, je me suis dit. Bon, déjà, ça m'occupait tous les jours. J'y passais une heure et demie. Enfin, je m'éclatais, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas... Vas-y, je me lance, je le mets sur les réseaux, quoi.
OK.
Je sais peut-être que j'avais envie de voir ce que les gens en pensaient. Ouais. Et en fait, ça, j'ai eu que des retours positifs. Et c'est devenu un peu mon rituel, ouais. Pendant le confinement, je crois que j'en postais une toutes les semaines.
OK.
Ouais.
Et une nouvelle chanson que t'apprenais, que tu chantais.
Ouais.
Ok.
Et en fait, depuis, j'avais enregistré une chanson en studio il y a quelques années. On m'avait offert ça comme cadeau. J'avais trop kiffé. Et du coup, là, on m'avait réoffert des cours cette fois avec la même prof. Et donc, en fait, c'est rigolo parce que on s'est aperçu que Jonathan allait au même endroit.
Ok.
Et donc en fait, on a un peu, enfin, on a cette passion commune pour le chant, et du coup, on s'éclate, quoi. Maintenant, on va au studio ensemble, on enregistre des chansons.
Trop chouette. Ouais. Ah, mais c'est une super activité, je trouve.
Ouais, c'est trop bien.
Ok. Et t'as pris des cours de chant ou
non,
jamais.
Jamais.
Donc t'as l'oreille musicale à ce point-là, quoi. Parce que moi, c'est un enfer. Moi, je suis complètement décalé et tout. J'arrive pas du tout.
Moi, c'est notre père qui est très très musique. Mais alors, c'est drôle parce que lui, pareil, il a toujours fait tout à l'oreille. C'est-à-dire qu'il joue du piano, de la guitare, il chante un peu, mais tout à l'oreille. Il a jamais pris de cours, jamais. Il sait pas lire solfège, enfin. C'est rigolo.
Et là, du coup, avec ta petite blessure, c'est quelque chose que tu as envie de partager à nouveau, peut-être avec les gens qui te suivent.
Ouais.
Pour ça a l'air d'être un super exutoire, en fait.
Ouais, j'avoue que des fois, quand je suis un peu down, je me dis j'ai envie de chanter, et ça me fait du bien, ouais.
Ouais.
Après, c'est drôle parce que selon la forme, par contre, il y a des moments où, quand je suis fatiguée, je suis pas satisfaite de ce que je fais, quoi.
Okay.
C'est-à-dire que j'arrive pas à mettre l'énergie que je veux dans la chanson, et pour le coup, bah là, il y a 2-3 jours, j'en ai fait 2-3, et je dis non, là il y a rien qui me transcende pour les poster, quoi, tu vois. Mais j'en ai posté une là depuis que je suis blessée, et elle a bien marché.
Je crois que c'est celle que j'ai vue, c'est Maria Carey, je crois. Non. Whitney Houston.
Ouais.
Très cool, très
merci.
Cool. Et peut-être, alors c'est peut-être bête ce que je vais demander, mais est-ce que t'as essayé d'en faire des passerelles avec justement le sport ou la préparation mentale, tu vois, de dire justement ouais, ça peut être un outil que j'utilise quand je suis stressée, quand j'ai des mauvaises émotions ou...
Alors ça a été un outil, en fait j'ai trouvé des similitudes au niveau de la respiration. Il y a plein de trucs que la prof de chant m'expliquait et je disais ouais ça ok je le comprends bien parce que en pilates ou yoga je l'ai travaillé quoi. Donc ça c'était cool d'avoir déjà des passerelles tu vois pour comprendre plus facilement. Et par contre en fait maintenant avec le Covid enfin depuis qu'on a repris les tournois Covid là, on est coincé dans nos chambres toute la journée. En fait, on n'a pas le droit de sortir et du coup bah c'est devenu un peu mon passe-temps aussi en tournoi quoi.
Okay. Ok.
Donc c'est pas forcément un exutoire pour le stress ou quoi, mais c'est un passe-temps. Mmh. Moi je kiffe, j'enregistre.
Comment ça se... Vous êtes confiné dans votre votre chambre? Ok. Comment
encore à ce jour, enfin les règles sont hyper strictes.
C'est à cause des pays, c'est à cause de la ligue de squash.
Je crois que c'est essentiellement la ligue parce que quand tu regardes même les autres sports. Dans les pays, dans les mêmes pays où on va, ils ont le droit au moins à avoir leur staff avec eux. Nous, on n'est toujours pas autorisé à avoir notre entraîneur, quoi.
D'accord. Ouais. Durant le tournoi. Ok.
En fait, t'arrives un jour avant la compétition. Ce jour-là, t'es testé au niveau, comment ça s'appelle, les tests Covid.
Ouais.
Pour voir si t'es positif. Alors que là, on commence à être tous vaccinés, hein, mais bon. Continue à nous mettre des trucs dans le nez.
De haut niveau, vous êtes tous testés, vous êtes tous vaccinés.
Donc du coup, dans cette journée-là, t'es vraiment confiné dans ta chambre, même pour manger, t'as pas le droit de sortir parce qu'ils veulent que tu prennes aucun risque. Donc tu restes dans ta chambre jusqu'à ce que t'aies résultat. Quand t'es positif, ils t'organisent l'entraînement du soir pour aller. Et donc là, tout est minuté. Tu sors toujours avec ton masque. T'as une voiture qui t'attend. Souvent, c'est soit seul, soit avec ton adversaire.
Ouais.
Parce qu'ils veulent éviter au max les mix en fait avec d'autres joueurs. Donc puis après dès que t'as fini, tu rentres à l'hôtel et le jour de ton match c'est pareil quoi.
Ok. Ouais.
Et en fait pour manger après quand on a eu le résultat qui est négatif, on a le droit de soit commander à l'extérieur donc se faire livrer à l'hôtel et puis manger dans notre chambre, soit des fois ils arrivent à organiser un espace extérieur. Tu vois, dans l'hôtel, pour qu'on puisse manger à l'extérieur, mais toujours avec les distances Covid.
Ok.
Et donc là, dernier tournoi où je me suis blessée en Égypte, mon coach est venu, Jonathan est venu, mais on restait toujours à distance Covid. Donc
c'est fou, ouais.
Et il avait pas le droit de venir me parler entre les jeux.
Ok.
Donc des fois, je regardais pour voir s'il me faisait des signes et tout, mais...
Vous avez le droit au squash de communiquer avec l'entraîneur?
Normalement pas trop.
Ouais, normalement
mais
non.
Mais tout le monde le fait.
Ouais, c'est comme au tennis, normalement c'est formellement interdit, mais bon, dans la réalité des...
C'est ça.
Dans la réalité des faits, ça parle beaucoup.
Ouais.
OK. C'est dingue que la situation en soit encore là.
Ouais, c'est chiant.
Maintenant OK. Ça a été une année compliquée pour à gérer. Du coup, Covid, j'imagine, il n'y avait plus de tournois, plus grand chose. Comment est-ce que toi, tu t'étais un peu
Ben, ça a été compliqué parce que en fait, je me souviens quand on a été confinés ici. Bon, déjà, c'était drôle parce qu'ils nous ont dit 2 semaines par 2 semaines, puis un mois. Enfin, du coup, au début, je me disais bon, ça va, c'est cool, c'est pas long. Et puis bon, au bout d'un moment, on en avait marre, quoi. Et puis en fait, c'est drôle parce que déjà, donc en avril, je me souviens du 2020, Colin, qui était en Angleterre, avait des échos pour les tournois qui reprendraient qu'en octobre. Et je disais mais non, mais c'est pas possible, enfin on était en avril, enfin ça nous paraissait démesuré quoi, on savait pas à ce moment-là quelle ampleur que ça allait prendre.
Ouais.
Et puis finalement de la dernière compète, elle remontait à mars et jusqu'à septembre on a eu aucune compète internationale. Et puis après il y en a eu une en Angleterre et en fait toute l'année la saison 2020-2021
ouais,
a été très très light.
Ouais.
Et encore, c'est l'Égypte qui nous a sauvés parce que là, on a fait cinq tournois là-bas, quoi.
Ok.
Heureusement, il y a les sponsors eux qui financièrement, arrivaient à faire des tournois, quoi.
Ouais.
Mais sinon, ça aurait été très très compliqué. Et là, on voit de plus en plus de tournois, même des plus petits, parce qu'au départ, en plus, c'était dur parce que c'était que les gros. Donc, il y a pas mal de joueurs plus bas dans le classement qui ont vraiment eu des soucis quoi parce que ils
pouvaient même pas jouer
ouais.
Ah ouais
Donc il pouvait, il y avait plus aucune ressource financière, enfin perte de motivation parce que plus de compétition, enfin c'était compliqué. Même nous avec les jeunes avec qui on s'entraîne, enfin c'était dur quoi. Donc ouais. Là au moins ça a repris, tout le monde peut faire des tournois, mais il y a toujours ces règles strictes.
Ok.
D'hygiène et tout quoi.
Tu me disais ouais que tu voulais un petit peu pas parler de ta blessure, mais tu vois de communiquer un peu dessus. C'est pas frustrant un peu d'enchaîner les deux justement quand les tournois reprennent.
Ouais.
Est-ce que d'ailleurs t'expliques pas un peu ta blessure au fait que t'es une année peut-être un petit peu trop vide ou pas assez remplie?
En fait, le piège c'est que comme on savait pas quand ça allait reprendre, tout le monde a continué de s'entraîner fort.
Ouais.
Et en fait, ces limites, on n'a pas pris de repos vraiment parce que on se disait, on était au taquet en fait à se dire quand est-ce que ça va reprendre. Et du coup, depuis cette période Covid, personne n'a vraiment pris ou très peu de repos quoi. Donc peut-être qu'on a un peu, il y a pas mal de blessés, il y a eu pas mal de blessures, donc peut-être que chacun a un peu poussé trop.
Ouais.
Après, moi, il s'est passé aussi pas mal de choses dans ma vie perso qui, je pense, peuvent jouer sur le corps et des fois, on maîtrise pas, mais du coup, ça peut expliquer certaines blessures. Je sais pas, hein, c'est des hypothèses, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est chiant que ça arrive maintenant. Après, comme je te disais, le tour n'a pas repris encore complètement. Donc finalement, je m'en sors pas trop mal. Là, j'ai loupé l'US Open, mais après, c'est assez vide jusqu'à peut-être décembre, voire janvier.
Donc, okay.
Dans mon malheur, je m'en sors pas trop mal.
Ok, bon bah écoute, je te dis bon pour toi, je suis sûr que ça le fera. Bah écoute, ouais, on a vraiment abordé de plein de sujets et c'était vraiment cool. J'ai des petites questions pour la fin. Tu peux y répondre un peu du tac au tac si tu veux.
Ok.
La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi.
Une bonne journée.
Ouais, c'est quoi une bonne journée pour toi?
Déjà, elle commence ensoleillée, comme aujourd'hui.
Ouais.
Pour moi, c'est être entourée des gens que j'aime, faire quelque chose qui va me donner du plaisir. Donc, ça peut être du squash, mais ça peut être du chant, ça peut être passer un bon moment entre amis, autour d'un bon repas. J'aime beaucoup manger.
Okay.
Donc, aller faire un brunch dans Paris, j'adore. Voilà, et puis me coucher le soir en me disant que ouais, que j'ai fait peut-être quelque chose d'utile aussi dans ma journée, voilà.
Ok, trop cool. Du coup, t'as parlé de brunch, mais c'est quoi ton plat préféré?
J'en ai pas. Franchement, j'aime trop manger. C'est impossible d'en choisir un.
Ok, mais bon, on n'en aura pas.
Mais je suis très brunch, c'est vrai.
Tu es très brunch.
Ouais.
Bon j'ai quelques adresses si tu veux.
Ah cool.
J'ai des très bonnes adresses.
Trop bien.
Trop cool. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta playlist?
Waouh, de tout.
De tout.
Ouais, franchement, de tout, mais j'avoue que je suis un peu le mouvement, tu vois, de ce qui passe à la radio.
Okay.
Je suis pas très curieuse d'aller chercher des trucs un peu originaux. Pas comme mon frère, tu vois. Mon frère, lui, il est très tout ce qui passe à la radio. Souvent, il aime pas quoi.
Ça passe à la radio, donc j'aime plus.
C'est un peu ça, tu vois. Non, mais lui aussi, enfin, et sa femme, ils sont musiciens tous les deux. Enfin, elle a fait vraiment une école de musique, donc elle joue de la guitare. Lui, il joue aussi de la guitare et il adore la musique et tout. Donc, ils sont un peu tous les deux. Ils aiment bien aller trouver des trucs originaux.
Ok, trop chouette. c'est quoi le... Si tu pouvais te donner un conseil, tu vois, à la jeune Camille de 18 ans, si tu pouvais retourner en arrière et lui dire un truc pour qu'elle soit plus épanouie, pour qu'elle soit plus heureuse, qu'est-ce que tu lui dirais?
C'est marrant parce que... Plus heureuse, franchement, je sais pas, parce que... Moi, tu vois, j'aime pas vivre avec des regrets. Et je me dis, quand des fois je regarde un peu en arrière, je me dis, non, j'ai pas de regrets. En fait, même les expériences que j'ai eues, bonnes ou mauvaises, c'était des expériences. Et du coup, je lui dirais juste, tu verras, ce sera un voyage de ouf. Mais kiffe, quoi.
Okay. Ouais, c'est bien dit. C'est bien dit. Est-ce qu'il y a une question ou une remarque qu'on te fait souvent et qui te saoule un peu?
On me demande souvent si j'ai pris un coup de raquette sur la lèvre.
C'est vrai?
Et c'est une tache de naissance.
J'avoue, bon. Mais c'est chiant.
Mais bon, elle est facile à faire, hein, forcément, quand on sait que je fais du squash.
Ouais. Mais tu veux, on peut se rendre des coups au squash? Quand?
Ouais, ça arrive. Mais oui. Bon, il y a des règles, pour les auditeurs. Si vous voyez que votre adversaire est proche de vous, ne jouez pas. Normalement, on s'arrête.
Ouais, ça peut être, le point est à rejouer, c'est ça, non?
Ou... Ouais, c'est ça. Sauf si vraiment la balle est trop dangereuse et que là, du coup, ça peut être point pour l'adversaire.
D'accord. Si carrément la balle est trop dangereuse.
Ouais.
Ok.
Si ils estiment que tu t'as pas fait assez d'efforts pour te dégager, là, du coup, point à l'adversaire.
Ok, trop cool. Et la toute dernière question, c'est de savoir, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro.
Ok.
Et bon, on a cité pas mal de noms, tu vois, on a parlé de Naki, de Émilie Le Pennec aussi.
Ouais.
Qui est-ce que tu verrais bien comme athlète de haut niveau français sur ce format-là que t'aimerais bien écouter, ou ça peut être dans le squash ou dans un autre sport que t'aimerais bien écouter sur un format un peu comme ça pour découvrir un peu son histoire et ses petits secrets, son organisation.
Alors attends, je réfléchis un peu.
Ça peut être quelqu'un que tu connais aussi.
Ouais, alors du coup, j'allais te dire au début, juste pour l'embêter, je t'aurais dit mon frère.
Bah oui, mais je vais être obligé.
Mais bon, du coup, l'histoire, je la connais, donc qui on pourrait faire? Ben bon, là, je pense à une nana du squash parce qu'en fait, elle est, je te disais, elle est assez timide et réservée. Mais tu vois, la numéro une mondiale actuelle, donc Nourelle Cherbini. On sait pas trop comment elle s'entraîne, ce qu'elle fait dans sa vie et tout. Ça m'intéresserait de savoir un peu tout ça.
Ok, tu sais si elle parle français? Non, ou en anglais?
Non, faudrait que tu le fasses en anglais.
Ça me dérange pas du tout. Pas cool. Du tout, challenge accepted.
Trop bien.
Ok, bon, ouais, écoute, franchement, je tente. Je lui envoie un petit message sur Instagram et si elle répond, je le fais. On sera sûrement à distance du coup, mais...
Trop bien. Voilà.
Écoute, j'ai passé un excellent moment.
Moi aussi.
J'ai beaucoup, beaucoup rigolé, beaucoup eu le sourire, donc
cool.
On a bien fait de méditer et de visualiser un peu ce matin. Merci infiniment, c'était trop cool. Franchement, à tous les auditeurs là qui nous écoutent encore, allez voir des petites vidéos de squash, vous allez voir, c'est super cool. Et n'hésitez pas à suivre Camille sur les réseaux sociaux parce que lui apporter du soutien et notamment en ce moment, je pense que ça lui fera du bien.
Merci.
Donc merci infiniment d'avoir pris le temps.
Merci
et
à toi.
Écoute, à bientôt.
Yes, bonne continuation.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.